chronique d'Occulte Racine sur Radio Ranciel avec Lynn. Chapitre 6. Aigre moine et salicaire. L'intelligence, ce n'est pas tout savoir, c'est savoir qu'on ne saura pas tout. Extrait des recueils d'Occulte Racine. Martin, le gardien dans la petite maison au pied de l'ancienne usine Varkoda, était un homme pour le moins étrange. Qu'on ne lui connaisse aucun nom de famille était une chose, mais qu'il n'ait aucun souvenir, aucune passion, ni aucune visite était nettement plus déroutant. Dans son logement de fortune, les maîtres mots étaient sobriété et vide. Pas de photos, pas une seule image au mur, pas de livre, aucun courrier qui traîne. Rien qu'une laisse présumée du passé de l'homme. Pourtant, il vivait bien là, depuis des années. Il passait le plus clair de son temps dans cette petite maison à surveiller les fenêtres. Parfois, il disparaissait, quelques heures tout au plus, et personne n'aurait su dire où il allait. Martin était un homme secret. Il avait les cheveux gris, les rides profondes, le bleu des yeux ternis et les lèvres effacées, mais impossible pour autant de lui donner un âge. Peut-être 50, peut-être 100. Il ne parlait pas beaucoup, et il parlait bas, toujours très calmement. Il n'écoutait jamais de musique, ne chantonnait pas, ne priait aucun dieu. Sa vie n'était que silence. Aussi, quand il partait, c'était sans faire de bruit. On ne l'entendait pas se préparer, ni ouvrir sa porte, et encore moins disparaître le long du quai de la Marne. Cette nuit-là, lorsqu'il quitta son logement de fonction pour s'enfoncer dans l'obscurité d'une ruelle, personne dans les immeubles alentours ne s'en rendit compte. Le petit vieux était doué pour passer inaperçu. Il pouvait traverser la foule à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans que nul ne se retourne sur son passage. Il n'avait pas besoin de se faire discret, sa présence n'intéressait personne. Et c'était sûrement son meilleur atout. Il n'était pas bien habillé, il ne portait que du noir, du gris, du délavé et du démodé. Il ne sentait pas bon, il ne portait aucun parfum, il ne mettait pas de déodorant. Mais il ne sentait pas mauvais non plus, il ne sentait rien. Les femmes ne le voyaient pas, les autres vieux ne le voyaient pas, la police ne le voyait pas. Il pouvait aller et venir dans tout Paris sans être jamais remarqué ni soupçonné. Sa meilleure couverture, c'était être lui-même, en toutes circonstances. Et comme personne ne l'attendait chez lui, personne ne s'inquiétait jamais de savoir où il était passé. Le couloir du métro dans lequel il s'engagea ressemblait à n'importe quel couloir de métro. Sa faïence blanche au mur, ses liserés verts de gris en haut et en bas, ses larges panneaux publicitaires aux couleurs criardes et son sol de béton noir. Sur le quai de l'étroite station près Saint-Gervais, pas un chat. Le train était loin, les bancs déserts. On entendait le vent souterrain dans les tunnels, la tension électrique dans les néons, l'aspiration des bouches d'aération. À pas feutrés et dans le dos de la seule caméra opérationnelle, le vieux Martin descendit la marche du quai et s'élança, à pied, dans le tunnel mal éclairé. Il longea les rails et leur odeur d'égout sur 100 mètres, s'arrêta au niveau d'une alcôve technique, sortit un passe de sa poche de veste et ouvrit la porte de service. De ciment et de moellons défraîchis, les murs des couloirs étriqués étaient à présent aussi sales et poussiéreux que le sol. Il régnait dans ces passages que peu empruntaient encore une humidité nauséabonde et une luminosité extrêmement faible. Mais Martin connaissait son chemin, il ne perdit pas de temps. À la prochaine bifurcation, il suivit la flèche bleue sur le mur surmontée du mot « AXO ». Il se dirigeait vers la station fantôme, cette station de métro sans accès vers la surface construite un siècle plus tôt entre les portes des Lilas et la butte du Chapeau Rouge. Une station abandonnée pour des raisons financières avant même d'avoir vu le jour. Il passa une seconde porte et arriva sur une nouvelle voie, la voie des fêtes. Drôle de nom pour une voie qui n'avait pas vu un seul usager ni entendu une seule note de musique depuis sa création. Les tags sur les parois du tunnel étaient partout, fresques gigantesques ou simples signatures de vandales sans envergure. Là, une phrase dans une écriture stylisée, étalée sous la lueur jaune. « Vous entrez dans le pré de l'Asphodel. » Le pré de l'Asphodel, ce lieu de l'enfer où errent ceux qui n'ont rien fait de leur vie. Ni bien, ni mal. Le graffiti n'était pas nouveau, mais Martin le relisait chaque fois, par habitude. C'était la preuve que celui qui cherchait les oubliés était sur la bonne piste, sur la bonne voie. Le quai de la station AXO se dressa devant lui 10 mètres plus loin, et il gravit les quelques marches pour l'atteindre. Là encore, c'était le royaume de toutes les dégradations, des squats abandonnés et des expéditions clandestines. De vieux magazines éventrés, des bouteilles vides, du papier toilette et des mégots par centaines. Les signes d'une population de paumés qui, de toute façon, ne venait plus par ici depuis des lustres. Depuis les premières rumeurs sur la bête que les oubliés avaient lâchée dans les souterrains. On disait la bête parce qu'on savait que ce n'était pas humain. Mais on ne savait pas ce que c'était. On l'entendait grogner et rugir au milieu de la nuit dans les tunnels noirs de la station fantôme. Mais personne ne l'avait jamais vu. Sur sa gauche, une courte impasse. Là, un passage aurait dû être creusé pour accorder le quai à un couloir, puis un escalier et enfin une bouche de métro à l'extérieur. Mais à la place, il y avait un mur plein de vieilles pierres entassées et peinturlurées de blanc, avec en son centre un énorme disque argenté, graffiti représentant à la fois une serrure et un œil, ou bien ni l'un ni l'autre. En tout cas, le vieil homme s'approcha de ce mur, écarta un détritus du pied, puis s'immobilisa. Un léger tremblement de terre et la paroi de pierre se souleva du sol, passage secret au mécanisme assourdissant. Quand la paroi eut totalement disparu dans le plafond, tête baissée, le vieil homme emprunta le large couloir qui s'ouvrait devant lui. Il marcha un moment, puis le passage forma un coude sur la droite, au bout duquel le tunnel perdut brutalement sa majesté. Tout diminuait. La largeur du corridor, la hauteur des plafonds, la luminosité, la température. Une odeur pestilentielle d'urine et d'excréments s'est élevée alentour. Comme une menace olfactive clairement perceptible dans l'air rance qui remontait en direction du visiteur. Le premier grondement au bout du tunnel ne tarda pas. La bête était à moins de 200 mètres, devant, droit devant, renâclant et rugissant. Martin fit un pas de plus, le sol se mit à frémir. L'animal chargé, les pierres vibraient dans les murs, dans quelques secondes, il serait là. Il jaillirait de l'ombre, fondrait sur sa proie et la dépecerait sur place. Le sort de Martin semblait réglé quand tout s'arrêta brutalement. De la lumière au tumulte, en passant par le tremblement des murs. Le vieil homme fit halte. Seule l'odeur de la bête persistait encore, très forte. Mais à part ça, plus rien. Plus un mouvement, plus un bruit dans la pénombre. C'était alors qu'une voix caverneuse s'éleva dans le tunnel. « Quelle est la sentence ?» tonna la bête invisible. Retour au silence. « Je ne m'en souviens plus, » fit Martin dans un soupir. « Ma mémoire se fane. » Le haut d'une silhouette apparut dans une lumière bleue, la carrure d'un formidable loup-garou de 2 mètres, gueule béante et mâchoire frissonnante, l'écume aux lèvres. « Deux oubliés ont répondu à votre appel, » grogna le monstre, avant de se retourner et d'ouvrir la marche. La tête toujours baissée, Martin lui emboîta le pas de sa foulée tranquille. Aux yeux de celui qui faisait le circuit pour la première fois, c'était un dédale de catacombes, dans lequel la bête baladait son visiteur afin de mieux le perdre. Mais c'était la quatrième fois que Martin venait. Il connaissait l'enchaînement des tunnels, il savait exactement où ils étaient. Les murs couverts de crânes, les squelettes allongés dans leurs niches, les cages thoraciques en décoration des voûtes, l'encadrement des portiques en épines dorsales. Même les écriteaux funestes en lettres de phalange, rien ne changeait d'une fois sur l'autre. On finissait toujours par franchir l'arche noire pour entrer dans l'immense cathédrale souterraine, alignement rectiligne de colonnes en béton à perte de vue. Les styles architecturaux se suivaient et ne se ressemblaient pas. Ils n'avaient de commun que leurs caractères effrayants. Devant lui, le dos massif et velu du loup-garou avança dans une zone d'ombre, s'arrêta et n'en ressortit jamais. Le monstre s'était volatilisé. Comme tout ici, la bête n'était qu'une illusion. Un effet spécial digne d'un jeu vidéo grandeur nature. Martin était seul désormais, au beau milieu de cet espace vertigineux bâti dans les profondeurs du sous-sol parisien. Dans cette forêt de troncs carrés, les volumes éclairés d'un petit bâtiment tel une cabane de sorcière au fond des bois, guidaient à présent ses pas. Un blockhouse aux arêtes impeccables, avec seulement une porte creusée dans sa façade laissant échapper une lueur bleutée. Ils n'étaient effectivement que deux. 2/10. Ils étaient assis côte à côte sur leur hémicycle de béton face au siège rectangulaire du visiteur. Celui de gauche portait un t-shirt avec l'inscription « Aigremoine », l'autre avec le mot « Salicaire », lui barrant le torse. Il portait des pégants, des masques de cycliste et des lunettes noires imposantes couvrant leurs yeux et leur nez. « Bonjour Martin », commença Aigremoine. « Je crois que Pimprenelle est sous la douche, sinon elle serait venue, vous vous en doutez. Elle sera verte quand elle verra qu'elle vous a loupé. » « Méon va peut-être nous rejoindre d'ici 2 minutes, mais il est sur autre chose là. Il vous passe le bonjour, » ajouta Salicaire. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre boss aujourd'hui ?» Martin n'aimait pas venir jusqu'ici. Il n'aimait pas cette jeune génération qui se déplaçait virtuellement dans les bunkers souterrains, qui ne dormait jamais, qui espionnait tout et tout le monde et qui pouvait accéder à n'importe quel point du réseau informatique à n'importe quel moment. Les oubliés étaient la mafia des temps modernes. Une mafia de gamins qui avaient rarement plus de 18 ans, qui prenaient leurs visiteurs pour des joueurs de console et qui s'adressaient à leurs clients comme à des potes du lycée. Des génies qui avaient tout vu, tout lu, tout compris, mais d'une inexpérience sociale désarmante. « Nous aurions besoin d'accéder au fichier de son cardiologue, » murmura le vieil homme. « Lequel ?» demanda Salicaire. « Celui qui l'a vu ce matin ?»« Vous voulez dire hier matin ?»« C'est ça. »« J'y suis, » poursuivit le garçon de droite. « Une patiente, » expliqua Martin. « Vous cherchez une femme, la trentaine, avec une canalopathie ou un syndrome de Brugada, qu'il aurait diagnostiqué guéri d'une séance sur l'autre. Sans explication, un dossier récent. » Moins d'une semaine. Je l'ai. Barbara Fargon, 34 ans, commentaire dans le dossier. État, rémission complète. ECG, normal ce jour. Décalage, indétectable. Aucune explication. Traitement alternatif. Une heure plus tard, il a envoyé un mail à un collègue qu'il connaît depuis l'université, continua Salicaire. Pourtant, c'est pas le genre à envoyer lui-même ses mails, le bonhomme. Voilà, je vous le lis. Blablabla, ce cas me laisse perplexe. Il défie toute logique médicale. Blablabla, aux examens, toutes les réponses arythmiques ont disparu. Les segments ST sont bien calés. Je n'ai plus aucune trace sur les relevés des dômes, jusqu'alors anormaux. Les blocs sont réguliers. Blablabla. Après contrôle, électrodes et scopes sont hors de cause. Je soupçonne plutôt l'intervention d'un confrère ou d'un traitement hors protocole. Mais lequel ? Impossible de lui faire dire quoi que ce soit. Pourtant, elle et son mari savaient en arrivant ce que j'allais leur annoncer. Ils voulaient seulement me l'entendre dire. « Waouh ! Mais c'est un vrai mélodrame médical, votre truc !»« Attends, lis la suite. » Quoi qu'il en soit, j'arrête les traitements par bathymotrope négative et je la revois dans 6 mois. Si tu peux être présent lors des prochains examens cliniques, je m'arrangerai avec la patiente pour que tu puisses l'ausculter toi-même, bien confraternellement. confraternellement. Il le sort d'où, ce mot ? C'est un médecin, souligna Saliquaire. Il parle pas la même langue que nous. C'est ça, c'est ce dossier, celui de la patiente que vous cherchiez. Barbara Fargon. Martin répéta le nom à mi-voix, puis opina. Ok, donc un coursier vous apportera une copie de son dossier sous 48 heures. Nous facturons le compte habituel ? Le compte habituel, confirma le vieux gardien. Autre chose ? Martin n'aimait pas travailler pour Arès Farcoda. C'était un homme dangereux et malade, qui n'avait d'amis que ses banquiers. Mais il faisait quand même le travail pour lequel il était payé. Parce que chaque mois, il touchait un salaire mirobolant, alors qu'il était déjà logé, nourri et blanchi par la maison Varcoda. Parce que tout ce qu'il touchait, il le faisait transiter de compte en compte jusqu'à un paradis fiscal à l'autre bout du monde. Et parce que dans 6 ans, maximum, il pourrait sortir de cette prison millionnaire et libre de tout engagement. « Autre chose ?» répéta Saliquaire. « Oui, » susurra Martin. « Une femme a disparu. »« Depuis longtemps ?» interrogea Saliquaire. « Moins de 24 heures, » répondit le vieil homme. « Vous voulez dire qu'elle a échappé à votre surveillance ?»« Laissez-moi deviner. » intervint le gamin au t-shirt marqué aigre-moine, la botaniste blonde de la dernière fois. Le vieil homme, sur son banc de pierre, acquiesça. Il l'aimait bien, pourtant cette gamine. Ça le gênait de faire ça. « Moira Galani, localisez-la, » reprit Martin, « et où qu'elle soit, faites-la arrêter par la police. Qu'il nous la garde au chaud, nous irons la chercher. Mais faites vite. Il veut lui parler. « Non, non, non !» s'agita Aigremoine. « Certainement pas. Ce sera sans nous cette fois. Carline et Pimprenelle nous en ont fait tout un foin à la dernière assemblée. Ça a duré des plombes. À votre avis, pourquoi on n'est plus que deux à répondre à votre appel ? Nous deux, on veut bien vous aider, mais on a toujours dit qu'on ne donnait pas dans les affaires conjugales, même pour nos plus gros clients. On apprécie bien votre patron, mais sur ce coup-là, on ne peut plus rien pour lui. On en a déjà trop fait. Cette fois, va falloir qu'il s'ébrouille tout seul pour retrouver sa copine, ou qu'il demande à quelqu'un d'autre. « Mon employeur sera très déçu, » fit remarquer Martin. « Désolé, passez-lui quand même le bonjour, » s'excusa Saliquaire. « Et puis, vous ne repartez pas les mains vides ?» apaisa Aigremoine. « C'est mieux que rien. » Martin se leva en marmonnant. « À la prochaine, vieux !» Les deux jeunes hommes en t-shirt noir firent un salut de la main et en une fraction de seconde, leurs hologrammes s'évaporèrent. Tout ça, c'était la faute de Moira. Elle ne le savait pas, mais c'était à cause d'elle que le pauvre Martin devait errer dans les sous-sols de la capitale pour traiter avec ces imbéciles de pirates informatiques. À cause d'elle qu'il allait devoir fouiller dans le parcours de cette Barbara Fargon. Comprendre comment elle avait pu guérir d'une maladie considérée incurable par les plus éminents cardiologues de Paris. À cause d'elle aussi qu'Arès Varcoda était prêt à remuer ciel et terre, désormais persuadé qu'il existait, quelque part, un traitement à base de plantes grenouilles capable de le soigner. À 11h le matin, après une nuit passée à boire, le milliardaire avait entendu un de ses cardiologues lui parler d'une miraculée. Et à 13h, assis devant son écran plat à espionner ce qui se disait sur son palier, il entendait de la bouche de son grand amour, Moira, qu'une plante miraculeuse pouvait effectivement le soigner. Alors forcément, vers 15h, après plusieurs verres et quelques recherches en ligne, ça avait fait tilt. En moins d'une heure, l'homme d'affaires, dépressif, avait repris goût à la vie. Des mois que Martin ne l'avait pas vu si enthousiaste. « Retrouve Moira !» s'était emporté Arès. « Fais-la revenir. Dis-lui que j'ai changé, que j'ai mis Ethel dehors. Dis-lui aussi que la plante grenouille portera son nom. Invente ce que tu veux, mais débrouille-toi pour qu'elle revienne. » Martin n'aimait pas savoir que l'homme avait encore de l'espoir. Il connaissait l'expression « l'espoir fait vivre ». Mais il savait aussi qu'entre de mauvaises mains, ce même espoir pouvait anéantir des vies, décimer des familles, voire détruire des villes. C'était l'expérience de toute une vie qui lui avait appris ça. Il en savait assez pour qu'à son âge, plus rien ne lui échappe. Sauf peut-être cette araignée qui le suivait depuis tout à l'heure. Et qu'il n'avait pas vu. Une minuscule araignée, avec un drôle de corps mal fichu, une démarche très étonnante, et de tout petits yeux verts.